Bonjour mon ami.
Bonjour.
Tu parais tout triste. As-tu un problème?
Je suis très inquiet à cause de la santé d'un ami.
Quel problème a-t-il?
Il est très malade. Il a trop maigri. Le docteur lui a révélé qu'il était atteint du sida. Sais-tu quelque chose au sujet de cette maladie?
Mon ami, le sida est une terrible maladie provoquée par un virus appelé VIH-Sida. Cette maladie sévit en ce moment dans le monde.
Le sida n'est-il pas juste une invention des Blancs pour décourager les amoureux?
Non, mon cher. Ce n'est pas une invention des Blancs, mais plutôt une réalité qu'il faut admettre. Car beaucoup en ont été déjà victimes dans notre pays. C'est la peste du siècle qui touche aujourd'hui tous les pays du monde entier. La situation est si préoccupante que la radio, la presse, les affiches publicitaires et la télévision annonce chaque jour des nouvelles pas du tout rassurantes à son sujet.
Je ne connais pas grand-chose sur cette maladie. Qu'est-ce que c'est exactement?
Le sida est provoqué par un virus très petit que l'on ne peut voir à l'œil nu et qui détruit le système de défense naturel de notre corps. Une fois ce système de défense détruit, notre corps devient la cible de toutes les maladies que tu peux imaginer. Si bien qu'une grippe, un palu, une diarrhée et autres maladies peuvent t'emporter facilement. Cette maladie est en train de faire tellement des ravages dans nos villes et villages que certains, par ignorance, parlent de sorcellerie, d'empoisonnement et même d'envoûtement.
Cela me semble très sérieux quand je t'entends parler. À quoi ressemble cette maladie?
Le sida est une maladie mortelle qui peut être transmise à l'homme de plusieurs manières. Avec cela, tu comprends que c'est un véritable danger pour la survie de l'humanité.
Dis-moi en détail comment il se transmet.
Tu peux t'infecter par des rapports sexuels avec une personne séropositive, c'est-à-dire contaminée par le virus VIH. Tu peux également t'infecter par des instruments en métal qui ont été souillés par le sang d'une personne séropositive, comme des couteaux, des aiguilles, des lames rasoirs, des bistouris, et aussi lors des transfusions sanguines. Il faut en outre signaler que les bébés peuvent aussi être infectés pendant leur naissance par des mamans séropositives. C'est ce qu'on appelle la transmission mère-enfant.
Dis-moi quels sont les principaux groupes à risque.
Mon ami, je pourrais te dire simplement que les personnes les plus exposées sont des personnes insouciantes qui mènent une vie désordonnée et irréfléchie avec des multiples partenaires sexuels. Dans certains villages, les femmes et les hommes changent de partenaire sexuel comme bon leur semble. Voilà un terrain propice où toute une communauté peut être infectée.
Les couples mariés peuvent-ils être infectés?
Ah oui, ils peuvent l'être. En effet, tout mari ou toute épouse qui mène une vie d'infidélité ou de débauche est exposé au même titre que toute personne immorale. L'un des conjoints peut attraper cette maladie et contaminer par la suite son partenaire. Un mari infidèle peut infecter sa femme même lorsque celle-ci lui demeure fidèle et vice-versa.
Dis-moi quelles sont les conséquences du sida.
Elles sont multiples. Premièrement, la mort anticipée d'une grande partie de la population active et particulièrement ceux en âge de procréer. Deuxièmement, le nombre sans cesse croissant des orphelins dans nos villes et campagnes. Troisièmement, le coût non négligeable de la prise en charge des malades, ceci malgré la baisse, voire la gratuité des médicaments dans certains pays. Quatrièmement, le malade affaibli ne peut ni travailler, ni poursuivre convenablement ses études à cause des maladies opportunistes qui peuvent le frapper à tout moment. Cinquièmement, il est difficile à une personne infectée de se marier et de fonder un foyer. Sixièmement, la personne infectée est parfois chassée par sa famille, abandonnée par ses amis et rejetée par la société.
Peut-on identifier au premier coup d'œil une personne atteinte du sida?
Pas au début. Les séropositifs, c'est-à-dire les gens infectés, sont apparemment bien portants avant la phase de la maladie proprement dite. Mais déjà à ce moment-là, ils peuvent transmettre la maladie à leur partenaire sexuel.
Est-ce parce que cette maladie est très contagieuse qu'une personne atteinte du sida ne devrait pas se marier?
En rapport avec ce sujet, il est important pour ceux qui voudraient s'engager dans une relation de mariage de faire au préalable les examens prénuptiaux. Le mariage étant pour la vie, il serait sage de nos jours que les couples engagés s'assurent d'abord de leur état de santé en faisant absolument le test de dépistage du VIH. Si une personne est déjà infectée, elle ne devrait pas se marier car elle pourrait causer la mort de son partenaire.
Dis-moi, quel est le traitement du sida?
Jusqu'à ce jour, il n'existe aucun remède qui guérit le sida. Quelques produits tels que les antirétroviraux peuvent réduire la progression de la maladie et prolonger ainsi la vie des malades, mais ne guérissent pas le sida. Ces produits coûtent cher dans certains pays et dans d'autres où l'on parle de gratuité, ils ne sont pas toujours disponibles.
Existe-t-il un vaccin pour cette maladie?
Il n'y a aucun vaccin en vue.
Aucun vaccin? Aucun remède en vue? Est-ce à dire que nous allons tous périr?
Non! Crois-tu que c'est tout le monde qui mène une vie insouciante et immorale? Mis à part les quelques cas dus à des fautes lors des transfusions sanguines, ceux des bébés nés des mères séropositives et ceux provoqués par des instruments souillés par le sang contaminé, il est établi que ce sont des personnes qui se livrent à une vie sexuelle désordonnée qui courent plus de risques.
Ah! Je vois. Comme il n'y a pas de remède, il faut donc tout faire pour éviter le sida. Est-il possible d'éviter cette maladie?
Oui, mon cher, c'est possible. Mais il est important que chacun comprenne qu'une fois que tu contractes le virus VIH, il n'y a aucun moyen de t'en débarrasser. Le transmettre à n'importe qui ne te l'enlèvera pas. Ce virus, tu peux le distribuer et par ta faute, faire mourir tes partenaires, mais tu le garderas tout de même et te réinfecter pourrait anticiper ta mort. Il faut faire tout ton possible pour ne pas l'attraper. Prends donc garde au conseil du monde. Aujourd'hui, le monde recommande l'utilisation du condom pour vous préserver d'attraper ce virus. Pour lutter contre cette maladie, certaines autorités distribuent gratuitement des paquets de condoms dans des lieux publics, les écoles et même dans les églises, croyant ainsi avoir trouvé la solution efficace pour barrer la route à cette terrible maladie.
Dans les écoles et les églises, cela me semble étrange.
Ah oui, mais c'est la triste réalité. Ils pensent que ceci aidera les jeunes à agir sagement et à les préserver du sida.
Distribuer les préservatifs à nos enfants, est-ce vraiment la solution? Est-ce que cela ne les encourage pas à se prostituer?
Oui, c'est une chose regrettable. La distribution des condoms, au lieu de protéger nos enfants, encourage seulement le sexe en dehors du mariage. À cause de ces condoms, certains jeunes et même des chrétiens adoptent parfois un comportement sexuel déviant et dangereux qui les mène à la destruction physique, morale et spirituelle.
Mon ami était de ceux-là. Il se vantait d'avoir connu beaucoup de filles. Il y a quelques années, il était encore bien portant et fort. Mais à présent, il est devenu squelettique et affaibli par la maladie.
Je suis désolé au sujet de ton ami. Malheureusement, aujourd'hui, plusieurs jeunes se comportent de la même manière. Ils plaisantent même au sujet du sida, en disant qu'on essaie tout simplement de les effrayer avec cette histoire. Pour eux, le sida, c'est seulement pour les autres. Ils pensent qu'il est normal d'avoir des relations sexuelles avec n'importe qui.
Explique-moi, le préservatif nous protège-t-il vraiment contre le sida?
À l'origine, les condoms ont été conçus seulement pour empêcher la grossesse. Si son utilisation était à 100% efficace, le taux de séropositivité serait-il en perpétuelle augmentation dans nos pays comme nous le constatons aujourd'hui? La réalité est que le condom ne fonctionne pas toujours efficacement pour des raisons suivantes. Il peut se déchirer, il peut être mal utilisé, certaines personnes refusent même de l'utiliser. Il peut être poreux et le virus qui est si minuscule peut passer à travers. Cher ami, l'homme cherche toujours à résoudre ses problèmes par sa propre sagesse, mais Dieu dans son livre, la Bible, déclare « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. »
Très bien. Mais je me demande si on peut attraper le sida par les contacts de la vue quotidienne avec des personnes infectées.
Nous pouvons nous occuper des malades du sida sans risque, pourvu que nos mains n'aient pas de blessures ouvertes. Mais c'est prudent de porter des gants. En effet, partager les mêmes toilettes, utiliser les mêmes douches, serrer la main et dormir dans le même lit ne peuvent pas nous faire attraper le sida. On attrape le sida en entrant en contact en particulier avec le sang et autres fluides corporels des personnes infectées. Le virus est dans les fluides de leur corps et non pas sur leur peau sèche.
Au fait, que faut-il réellement faire pour ne pas attraper le sida?
Cher ami, pour éviter d'être contaminé, il faut s'abstenir de toute relation sexuelle hors mariage. Rester fidèle à son mari ou son épouse. Ne se rendre que dans les cliniques et hôpitaux où les instruments tels que les seringues, les aiguilles et les bistouris sont stérilisés correctement. Ah oui, il faut aussi utiliser toujours du matériel à usage unique tel que les lames rasoirs. Il ne faut jamais acheter des injections chez les marchands ambulants. Les pharmacies, cliniques et hôpitaux sont les meilleurs endroits pour l'acquisition de ce matériel délicat. Restez prudent lors des transfusions sanguines et n'acceptez que celles qui sont faites dans les hôpitaux disposant d'une banque de sang où le sang à transfuser est minutieusement examiné à l'avance. Portez des gants en caoutchouc lors de l'administration des soins à toute personne infectée. Il faut aussi éviter de s'échanger de lames rasoirs comme nous le voyons souvent dans nos villages. Se faire coiffer dans les salons où le matériel est désinfecté correctement à l'eau de Javel. Éviter les fluides corporels d'une personne infectée et se laver après tout contact avec le malade.
Que dis-tu au sujet du préservatif?
Mon cher, je voudrais te dire que le port du condom ne saurait être une garantie pour te protéger contre le sida. Le monde recommande cette voie parce qu'il ne veut pas obéir à l'enseignement de Dieu. Dieu, notre Créateur, met l'accent sur l'abstinence et la fidélité. Dieu n'approuve pas des rapports sexuels avant le mariage. Il interdit la fornication, l'adultère et l'infidélité. Dans son livre, la Bible, Dieu commande de ne pas commettre l'adultère. Cela signifie tout simplement que le Créateur autorise des rapports sexuels uniquement dans le mariage. Entre mari et épouse.
Est-ce que possible qu'une personne puisse s'abstenir des rapports sexuels extra-conjugaux et rester fidèle exclusivement à son conjoint?
Oui, cela est possible. Mais pour certains, ce n'est pas du tout facile. L'homme de lui-même n'a aucune force pour résister à la tentation en raison de sa nature faible et pécheresse. La tentation sexuelle guette tout le monde. La Bible dit que chacun est tenté par son propre désir. Puis le désir donne naissance au péché. Lorsque le péché atteint son comble, la conséquence est la mort. Mais quand nous devenons chrétiens, l'Esprit Saint vient habiter en nous et nous donne la force et l'autodiscipline de résister à la tentation et de se conformer à la volonté divine.
Alors, comment peut-on se conformer à la volonté de Dieu? Comment peut-on vivre selon les recommandations de Dieu?
Dieu, notre Créateur, nous a donné des lois. En obéissant à ces lois, avec la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons faire la volonté de Dieu et vivre ainsi en harmonie avec lui. La Bible enseigne, « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et non à ses femmes. Et les deux seront une seule chair. » Les relations sexuelles dans un couple marié et seulement dans ce cadre sont précieux dons de Dieu.
Que penses-tu des relations sexuelles hors mariage?
Avoir même un seul rapport sexuel extra-conjugal, avant ou après le mariage, est une offense aux lois du Créateur. C'est également un péché contre son conjoint et contre ses propres enfants. Il est tout à fait regrettable que la plupart des hommes se plaisent à faire le contraire de ce que Dieu leur demande. Ils préfèrent vivre comme ils veulent et faire comme bon leur semble en se livrant à l'immoralité honteuse et irresponsable.
Comment est-ce tout ceci a commencé? L'épidémie du sida a-t-elle l'origine d'immoralité?
Peu importe sa provenance, le sida s'est répandu parmi les hommes et est devenu l'une des conséquences du péché. Par cette épidémie, Dieu dans son amour nous avertit et nous rappelle qu'il voit tout ce que nous faisons, qu'il n'est pas indifférent à nos péchés, qu'il les déteste et les a en horreur. Ces péchés ont des conséquences de grande envergure et beaucoup d'innocents meurent aussi en raison du péché des coupables.
Dieu condamne-t-il l'immoralité?
Ah oui, il déteste tout péché. Le péché nous sépare de Dieu et mène à la mort. Souvenons-nous de la destruction de Sodome et Gomorre par le feu à cause du péché d'immoralité. Le péché, la désobéissance aux lois de Dieu, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort mène à la punition éternelle dans l'enfer.
L'enfer? J'ai entendu parler de cela. Qu'est-ce que c'est?
L'enfer est un lieu de tourment indescriptible, cher ami. Cet endroit terrible, qu'on appelle aussi les temps de feu éternel, est réservé à Satan et à toute personne qui ne veulent pas obéir aux lois de Dieu. Les gens en enfer souffriront pour toujours. C'est un endroit isolé où on ne peut pas recevoir d'aide. Il n'y a aucun ami ou amour dans l'enfer. Seule la douleur, la punition et la souffrance existent pour toujours dans ce lieu de tourment affreux.
Cela veut dire que Dieu est vraiment fâché contre nous.
Oui, mais tu peux facilement comprendre le pourquoi. Car l'adultère, la fornication, la pornographie, la prostitution, l'homosexualité, les relations coupables avec les enfants, avec les animaux et l'inceste sont devenues des pratiques très courantes dans nos villes et nos campagnes. Pire encore, l'homosexualité est même aujourd'hui légalisée dans certains pays. Nous nous rappelons encore une fois qu'à cause de telles pratiques, Dieu avait détruit Sodome et Gomorre. Je pense qu'au travers de cette pandémie, Dieu qui nous aime nous parle et nous demande d'abandonner ces pratiques ignobles et de se tourner vers lui, car de telles abominations attirent certainement la colère de Dieu sur l'humanité. Le péché devant Dieu est pire que le sida, parce qu'il nous entraîne pour un séjour éternel dans les temps de feu.
Quelle est exactement la position de l'homme devant Dieu?
La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous se sont égarés, il n'y a pas de juste sur la terre, même pas un seul. Nous sommes donc tous coupables devant Dieu. Nous avons tous violé la loi de Dieu. Nous sommes séparés de lui.
Nous avons tous péché? Mais y a-t-il encore un espoir pour nous les pécheurs?
Oui, il y a espoir. Dieu dans son amour offre gratuitement à tous les hommes, victimes du sida ou pas, une seule solution à notre problème de péché. Cette unique solution est en Jésus-Christ, qui est venu de Dieu pour être notre sauveur.
Ah oui, Jésus-Christ, peux-tu me parler de lui?
Dieu est saint et juste. Sa loi dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il ne peut effacer aucun péché sans la mort du coupable. Pour que la justice de Dieu soit satisfaite, il fallait qu'un innocent meure à notre place. Cette personne sans tache, pure, innocente, sans péché qui pouvait satisfaire la juste exigence de Dieu est bel et bien Jésus-Christ. Jésus est venu sur la terre pour donner sa vie. Il a été cloué sous la croix à cause de nos péchés.
J'ai pensé qu'en ces jours, seulement les plus mauvais criminels auraient été crucifiés comme lui. Comment juste un juste peut-il subir la punition qui était réservée aux criminels?
C'est vrai. La croix autrefois était réservée aux malfaiteurs. Mais Jésus-Christ, qui était sans péché, a porté le lourd fardeau de nos péchés sur la croix, afin de nous réconcilier avec Dieu. Sur la croix, Jésus n'était pas en train d'être puni pour son propre péché. C'est à cause de tes péchés et de mes péchés qu'il a souffert la punition qui nous était destinée. Il a pris sur lui notre péché, notre honte. Christ a donné volontairement sa vie pour nos péchés. Il a subi la colère, la malédiction, l'abandon de Dieu que nous méritions. Mais cette histoire triste a une fin heureuse. Bien que Jésus soit mort sur la croix, il n'est pas resté dans la mort. Car 3 jours plus tard, il est ressuscité. Jésus a vaincu la mort. Jésus est vivant pour toujours. Maintenant, Jésus a la puissance de transformer et de donner la vie éternelle à tout homme qu'il accepte comme sauveur et Seigneur personnel. Jésus-Christ est le seul moyen que Dieu nous offre pour nous réconcilier avec lui.
Concrètement, comment pouvons-nous recevoir Jésus-Christ dans nos vies?
Oui, Jésus est le seul remède pour notre problème de péché. C'est merveilleux d'avoir un remède. Encore faut-il le prendre. Dieu ne force personne, mais dans son amour, il ordonne à tous les hommes qu'ils aient à se repentir et à croire à son Fils Jésus-Christ. La Bible indique que nous devons nous détourner de notre péché et crier à Dieu. Dieu nous pardonne et nous protège si seulement nous recevons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. La Bible dit « Le cadeau de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Si tu veux recevoir Jésus-Christ dans ta vie, tu dois admettre que tu es un pécheur perdu et que par tes propres efforts, tu n'as aucun espoir. Confesser tous tes péchés à Jésus-Christ et renoncer à ton ancienne vie de péché. Inviter Jésus-Christ dans ton cœur afin que le Saint-Esprit vienne habiter en toi. Et c'est à ce moment qu'il te donnera la capacité de vivre selon sa volonté. Celui qui reçoit Christ dans sa vie devient un enfant de Dieu. Il obtient le pardon de ses péchés et la vie éternelle.
Comment pouvons-nous savoir que Dieu nous a pardonné?
La Bible est la parole de Dieu. C'est la vérité. Dieu ne peut mentir. Dieu accomplit toujours ses promesses. Il est écrit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse trouve la miséricorde. » Il est également écrit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Aucun homme sur la terre ne peut pardonner les péchés. Pour obtenir le pardon de tes péchés, il faut croire en Jésus-Christ. Les personnes atteintes du sida ne doivent pas désespérer. Dieu aime tous les hommes, victimes du sida ou pas. Dieu offre le salut à tous les hommes sans exception. Il les invite tout simplement à accepter Jésus, à croire en lui et à se repentir, afin de leur donner la vie éternelle. C'est le péché qui est à la base de tous nos problèmes. Quand une personne croit en Jésus, elle lui confesse tous ses péchés, abandonne son ancienne vie de péché et invite Jésus-Christ dans sa vie, elle obtient ainsi la paix avec Dieu et devient enfant de Dieu. Elle ne devra plus être punie pour son péché en enfer.
Mais que dis-tu des personnes atteintes du sida? Dieu peut-il les sauver? Dieu peut-il les guérir?
Au sujet des personnes infectées, Dieu, dans sa souveraineté, peut parfois décider de guérir le corps physique. Mais ce qui est plus important pour lui, c'est notre guérison spirituelle. Dieu promet à tous ceux qui reçoivent son Fils Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur la vie éternelle auprès de lui au ciel.
Je veux avoir la paix avec Dieu. Peux-tu me venir en aide?
Je suis heureux de t'aider. Répète après moi cette prière. Saint-Père, je suis un pécheur. Je suis désolé pour la vie que j'ai menée. Je crois en Jésus. D'aime me pardonner parce que je crois que Jésus a payé tous mes péchés sur la croix. D'aime me pardonner tous mes péchés et me purifier au nom de ton Fils Jésus. Je veux être libéré de mon péché et obéir désormais à ta volonté. Mais je n'ai aucune force en moi-même pour agir ainsi. Merci de m'aimer et de m'offrir le don de la vie éternelle. Merci parce que tu as envoyé ton Fils Jésus mourir à ma place, afin que je devienne une personne nouvelle. Que ton Saint-Esprit demeure dans mon cœur et me donne la force de t'obéir. Prends le contrôle de toute ma vie. Aide-moi désormais à vivre selon ta volonté. Amen. Maintenant que tu viens de recevoir Jésus-Christ dans ta vie, recherche une assemblée où la parole de Dieu est fidèlement prêchée et pratiquée. D'autres croyants pourront t'aider à mieux connaître la personne de Jésus-Christ, à t'enseigner la parole de Dieu et à t'encourager dans ta foi afin que tu triomphes à toute tentation. Lis désormais la parole de Dieu tous les jours et prie toujours parce que Dieu veut t'entendre et t'aider.
Oui, je le ferai. Merci beaucoup. Je suis vraiment très heureux.
Tu as percé le voile de notre histoire pour éclairer notre sort. Tu as donné des ailes à notre espoir en revenant de la mort. Comme la neige qui tombe au printemps, comme une plume dans une rafale de vent. Tu ne cesses de nous surprendre, Seigneur des Alizés. Lorsque j'ai du mal à ramer et les vents me sont contraires, dans la nuit de tous les dangers, tu viens marchant sur la mer. Si l'orgueil me détourne de toi, les épreuves me renvoient dans tes bras. Tu m'apprends la vie par la foi, Seigneur des Alizés. Dieu du bélier dans le buisson, toi qui m'arraches à la tombe, face à des rapaces qui m'entourent, tu m'envoies une colombe. Je m'abandonne à ta volonté, je me couvre devant ta face. Je te remercie pour ta bonté et les trésors de ta grâce. Plus de peur devant l'inattendu, et qu'importe ce qu'apporte l'imprévu. Je veux suivre tes paroles, Jésus, Seigneur des Alizés.